Tamani, voici nos informations en français.
Il est 8h à Legal Segou, un quartier de la ville de Kay, même heure sur l'ensemble de nos radios partenaires. Monsieur Dan, bonjour et bienvenue à la matinale. Voici les titres. Les avoirs du Mali sont gelés à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, depuis plus d'un mois. Des économistes rassurent que le pays pourrait faire face à la situation si elle perdurait. L'État annonce une mobilisation de près de 6 milliards de nos francs pour l'alimentation scolaire cette année. L'annonce a été faite par le ministre de l'Éducation lors de la 7e édition de la Journée africaine de l'alimentation. La région de Saint enregistre plus de 2700 personnes déplacées. Le service de développement social affirme que les conditions de vie de ces personnes sont acceptables, mais ces ménages continuent de demander de l'assistance. À la présentation, Mariam Maïga, la mise en onde est assurée par Gani Kanté. Bientôt 2 mois que le Mali est sous sanctions financières et économiques de la CEDEAO et l'IOMOA, notamment le gel des avoirs du pays à la Banque centrale ouest-africaine. Certains avaient prédit une situation catastrophique en cas de telles sanctions, notamment l'incapacité du pays à assurer les salaires des fonctionnaires. Pour Dr Moussa Diallo, économiste et enseignant-chercheur à l'Université des sciences économiques et de gestion, le Mali pourrait trouver d'autres alternatives pour faire face à ces sanctions aussi longtemps qu'elles vont durer. Docteur Moussa Diallo, enseignant-chercheur, est joint par Imirana Kilumaïga.
Le problème des sanctions, c'est le gel des comptes de l'État au niveau de la banque centrale. Mais même là, il peut y avoir des alternatives. L'alternative, c'est que les ressources qui sont mobilisées peuvent être drainées, non pas au niveau maintenant de la banque centrale, mais au niveau des banques de second rang, pour que l'État puisse continuer à faire face à ses fonctions régaliennes. Ça fait plus de 25 ans, les salaires au Mali ne sont pas liés aux partenaires. Les salaires sont carrément assurés par l'État du Mali à travers les recettes mobilisées par les services des impôts et les services des douanes. Après le coup d'État de 2020, aucun partenaire ne faisait un versement direct à l'État. C'est-à-dire que les appuis budgétaires ont été coupés, mais l'État continue. Et puis ces sanctions, elles ne pourront pas durer pour la simple raison que les effets pervers, l'effet boomerang des fonctions et des sanctions commencent déjà à se faire sentir au niveau du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, qui sont les deux principaux partenaires économiques du Mali dans la région.
Toujours sur le même sujet, à Diboli, dans la région de Kay, ville frontalière entre le Mali et le Sénégal, des centaines de camions et gros porteurs sont stationnés tout au long de la route principale et même dans les rues. Bloqués sur place, ils attendent la levée des sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Des sanctions qui impactent aussi le quotidien des populations locales. Elles achètent aujourd'hui le kilogramme du sucre entre 600 et 750 francs CFA. Reportage de notre envoyé spécial Arkia Touré. De retour de Diboli.
C'est l'ambiance à Diboli parmi les centaines de camions stationnés dans la ville. Certains transportent des aliments. Ces derniers tentent de se frayer un chemin. Ce blocage a commencé depuis la fermeture des frontières, explique Gaussou Diarra, secrétaire à la mairie de Diboli.
Ces camions-là, maintenant vu le travail de la douane, ces camions-là sont obligés d'arrêter parce qu'il n'y a pas de parking jusqu'à ce que la douane termine son travail.
Les transporteurs bloqués dans la ville attendent ainsi la levée des sanctions de la CEDEAO depuis plus d'un mois. Ils s'impatientent.
Certains sont ici depuis plus d'un mois. Si tu dois y rester sans argent ni nourriture, c'est un vrai calvaire.
Il faut souligner que le passage des camions qui transportent les denrées de première nécessité est normalement autorisé. Certains camionneurs ont donc décidé de se réorganiser.
Nous étions à Dakar. Par la grâce, nous sommes rentrés aujourd'hui. Je suis resté là-bas tout ce temps, car il me fallait des produits alimentaires pour charger mon véhicule. Je transporte des boissons, sinon j'ai eu d'autres propositions. Mais je ne pouvais pas venir avec ces produits-là, car ils sont interdits.
Pourtant, quand on quitte la route pour entrer en ville, les habitants de Diboli dénoncent l'augmentation des prix des denrées de première nécessité.
Le kilo du sucre est monté en flèche. C'est vendu actuellement à 800 francs à Diboli. Le sac est cédé à plus de 30 000 francs. Le sac de riz est à 17 000 francs. Quant à l'huile, le bidon est cédé à 23 000 francs. Un kilo d'oignon est vendu à 600 francs.
L'être humain, c'est la nourriture. Sans elle, pas de vie.
Ils doivent penser à voir la situation négociations avec les commerçants. Il a été dit que les produits de première nécessité et le carburant ne sont pas concernés par l'embargo. Ce qui est vrai, car ici à la frontière, tous les jours, on les voit rentrer.
La frontière entre le Mali et le Sénégal est fermée, mais certains témoignent que les compagnies de transport passent timidement. Mais le transport coûte encore plus cher pour les clients.
C'est facile pour nous d'aller à Dakar, mais ici, on fatigue plus les étrangers, ceux qui viennent de Bamako. Du côté du Mali, il n'y a pas de problème. Mais une fois sur le terrain sénégalais, ils te disent que les frontières sont fermées. Alors, on te fait payer plus de 15 000 francs CFA, ce qui n'a rien à voir avec ton transport.
À partir de Diboli, c'est un pont qui sépare le Mali et le Sénégal pour rejoindre Kidira, une ville sénégalaise. Les échanges continuent entre les deux villes malgré les sanctions de la CEDEAO. Cela reste possible grâce à l'engagement des autorités de Kidira et de Diboli, expliquent des habitants.
Un reportage signé Arkia Touré de retour de Diboli. Rejoignez la communauté Studio Tamani en partageant et commentant nos informations sur notre page Facebook ou encore sur Twitter. Autre titre, l'État malien investira près de 6 milliards de nos francs cette année dans l'alimentation scolaire. C'est le ministre de l'Éducation nationale qui l'a annoncé ce mardi à l'occasion de la 7e édition de la Journée africaine de l'alimentation. L'événement a été célébré dans la commune de Safo, région de Koulikoro. Le thème de cette journée était « Développement de la nutrition et du travail humain en Afrique grâce à un investissement accru dans l'alimentation scolaire issue de la production locale ».
Les cantines scolaires ont favorisé le maintien des élèves à l'école et participent au développement de la commune de Safo, affirment les responsables locaux, Koleba Koulibaly, président du comité de gestion scolaire CGS.
Avant l'aide des cantines, vraiment, le directeur commence à abandonner l'école à Safo ici. On était à peu près 300 élèves, mais avec l'aide des cantines scolaires, nous sommes à peu près 1096 là où nous sommes.
Ces propos sont soutenus par certains élèves.
L'arrivée de la cantine nous a beaucoup aidés. Certains élèves sont loin. Après-midi, quand ils retournent à la maison pour manger, ils reviennent en retard. Ils nous préparent beaucoup de plats ici, comme haricots, espaghettis, les riz au gras. Ça nous pousse à étudier.
L'État malien et ses partenaires mobiliseront les moyens nécessaires pour construire des cantines pour le bien-être des élèves et les encadreurs. C'est l'assurance donnée par Sidibé Dedewu Ousmane, ministre de l'Éducation nationale.
Un taux de couverture nationale en cantine scolaire de 19,47%. Il faut ajouter à cet appui important la construction des 55 cantines scolaires pour un coût total d'1,4 milliard de francs.
La cérémonie a pris fin par l'inauguration d'une nouvelle cantine à l'école de Safo, équipée d'un kit d'ustensiles de la cuisine offert par la Chine. Les responsables scolaires interpellent les autorités à doter les 14 autres villages de Safo d'une cantine. Un sketch montrant l'importance de la cantine scolaire a aussi été joué par les élèves de l'école qui ont remercié les autorités scolaires.
Sur un tout autre sujet, de plus en plus des laboratoires d'analyse voient le jour à Bamako. Le plus souvent, ces structures privées s'installent en face ou non loin des centres de santé publics. Les malades et accompagnants dénoncent cette situation. Ils affirment être obligés par certains médecins d'aller faire des analyses courantes dans ces laboratoires privés. Selon des responsables du centre de santé hospitalier, cette proximité est une concurrence déloyale. Des allégations que réfute le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Mali. Selon ses responsables, les laboratoires d'analyse biomédicale peuvent être installés partout. Allez, Sissi.
Nous sommes au centre hospitalier universitaire de Poingé, une structure de santé publique où des milliers de personnes se rendent tous les jours pour des consultations. Non loin de là se trouve un laboratoire d'analyse où des malades et accompagnants de malades s'y rendent pour effectuer certaines analyses courantes. La présence de cette structure privée n'est pas vue d'un bon œil par le premier responsable de l'hôpital. Il dénonce une concurrence illégale. Ilo Bela Dial, directeur général du CHU de Poingé.
Nous sommes en train de voir avec les services qui ont donné l'agrément l'installation de ce laboratoire parce que ça constitue une concurrence illégale pour l'hôpital. Si vous voyez que le laboratoire marche, c'est qu'il y a des complicités au sein de l'hôpital. Parce que si tout le monde se disait que le laboratoire de Poingé, il est bien équipé, il a un personnel qualifié, on aurait très rapidement étouffé ce laboratoire extérieur.
Cet avis n'est pas partagé par le président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens. Pour le docteur Aliou Badrawad, c'est la santé de la population qui les préoccupe d'abord. Si un laboratoire s'installe près d'un hôpital, c'est pour soulager les populations, dit-il.
Bon, à quoi cela peut être une concurrence illoyale? Le fait de s'installer près d'un centre, nous, c'est la santé de la population qui nous intéresse. D'abord, avant tout, c'est pas des questions de ressources, mais nous mettons la santé de la population. comment. C'est du quoi? Il faut avoir un accès d'abord, que ce soit aux médicaments, que ce soit aux boîtes d'analyse, que l'accès soit facile.
Les spécialistes de la santé ajoutent que si des laboratoires s'installent près des centres de santé, ce n'est pas pour les concurrencer, mais plutôt pour aider les malades.
Un sujet signé Ali Cissé, direction 100 où plus de 2700 personnes, soit 484 ménages déplacés, sont aujourd'hui enregistrés dans la ville selon les chiffres du service du développement social et de l'économie solidaire. Conséquence de l'insécurité qu'ils ont fui au centre du pays. Les responsables de ce service affirment que ces déplacés sont dans des conditions humainement acceptables. Ils estiment que les autorités et leurs partenaires viennent en aide à ces déplacés. Si ces derniers confirment avoir reçu de l'aide, ils affirment qu'ils ne sont plus soutenus depuis plusieurs mois. Un reportage de notre envoyé spécial Ousmane Nialibouli de Retour de Sang.
À 100, les déplacés sont répartis entre 7 sites, mais un seul est reconnu officiellement. C'est le site de Farakolo, dans la ville de 100. Lamine Traoré est le chef du service local du développement social et de l'économie solidaire de 100. Il affirme que tous les déplacés de 100 bénéficient de l'assistance.
Ça va un peu, parce que ceux qui sont dans les sites, vous allez voir, il y a les tentes, ils sont logés. Mais ceux qui sont même hors site, c'est-à-dire qui sont dans les quartiers, chaque fois qu'il y a une activité en l'air concernant, ils sont appuyés à travers nos points focaux par l'État et l'ensemble des partenaires.
Ces déplacés reconnaissent les efforts des autorités et de leurs partenaires. Toutefois, ils regrettent de ne pas avoir l'aide alimentaire depuis plusieurs mois et ils demandent le soutien de bonne volonté. Adama Sangare, un des porte-parole des déplacés du site de Farakolo à 100.
Ce ne sont que les médecins qui viennent nous voir. Même hier, ils sont passés par là. Mais quant à l'aide humanitaire, ça fait longtemps qu'on ne reçoit rien, notamment les vivres. Nous n'avons plus d'aide, ni en espèces, ni en vivres. Aujourd'hui, nous avons vraiment besoin d'aide, que ce soit en espèce, que ce soit en nature.
En attendant de pouvoir retourner dans leur localité respective, se déplacer, se débrouiller autant qu'ils peuvent pour subvenir à leurs besoins. Ousmane Nialibouli, des retours de sang pour Studio Tamani.
Parlons à présent de ce signe particulier chez certaines personnes. Ce signe n'est autre que la calvitie. Elle est aujourd'hui considérée comme un signe du vieillissement, affirment certains. D'autres l'associent à une mauvaise santé. Beaucoup d'hommes souffrant de calvitie ont l'impression, à tort ou à raison, que les regards portés sur eux ont changé après la perte de leurs cheveux. Les cheveux représentent la jeunesse, la fougue, qu'ils soient en bataille ou soigneux. Coiffés, disent certains jeunes. Les perdre revient à dire adieu à des facettes d'eux qu'ils aimeraient conserver pour toujours. Calvitie, quel est le regard de la société sur les personnes chauves? Un dossier de Alice
Issi.
Assis dans leur grain autour d'un thé à Asseidemil, un quartier de la capitale, ces jeunes abordent la discussion sur la calvitie avec un ton plus relax. Les plus âgés du groupe, un chauve, s'éclatent de rire mais refusent de s'exprimer sur le sujet. Un autre à côté de lui accepte de s'exprimer sur le sujet. Il estime qu'être une personne chauve ne signifie ni la richesse ni la pauvreté.
La calvitie n'a rien à voir avec la richesse ou la pauvreté. C'est une déformation chez certains, sinon ce n'est pas mauvais en soi.
Outre les simples changements esthétiques, perdre ses cheveux peut également avoir un impact psychologique, comme l'explique Moussa Samake, un jeune qui a la calvitie.
La calvitie te sens juste le visage. Certains ont même honte. Ça rend certains beaux, mais d'autres laid.
Quelle est donc l'opinion des jeunes femmes sur la question? Tenemba Diara est une jeune étudiante. Elle préfère plutôt les personnes qui ont encore leurs cheveux et pour plusieurs raisons.
Moi, personnellement, j'aime pas les hommes chauves car les cheveux, ça rajoute un truc à la personne. Et puis, j'adore caresser les cheveux de mon partenaire.
Pourtant, la calvitie peut être vue sous plusieurs formes dans certaines cultures. Selon ce traditionnaliste Peul qui a requis l'anonymat, il y a des calvities qui sont des signes de pauvreté.
Dans la culture Peul, c'est un signe de richesse. Le calvitie qui avance rapidement et progressivement, qui n'améliore pas du tout ton état. C'est la mauvaise calvitie. C'est un signe de pauvreté absolue.
La perte des cheveux peut toucher les hommes comme les femmes pour diverses raisons médicales, selon les spécialistes de la santé.
Un dossier d'Ali Cissé avec la voix de Mahaman Babakunta.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Écho de nos régions, commençons par la région de Kaï, fin des travaux de construction du centre d'état civil du cercle d'Almoustrat. L'infrastructure a été financée par l'Union européenne à travers son programme d'appui au fonctionnement de l'état civil et la mise en place d'un système d'information sécurisé au Mali. Le centre contribuera, selon ses responsables, à l'universalité des faits d'état civil par la mise en place d'un système d'information et de gestion sécurisée. L'édifice est doté de toutes les commodités. Sa réception officielle est prévue pour la semaine prochaine. De Gao, rendons-nous à Koulikoro où la création du pôle numérique dans la région est au cœur d'un atelier ouvert lundi dernier. La rencontre vise à proposer au ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration un programme cohérent et bancable pour faire de la région de Koulikoro un pôle numérique agricole et rayonnant au Mali. Une centaine d'acteurs nationaux et régionaux, notamment les start-upers, participent à la rencontre organisée par le projet d'intervention en renforcement de capacité du programme Enabel. Elle prend fin aujourd'hui. Terminons notre tour d'horizon de l'actualité régionale par Koutiala où 47 morts et plus de 985 blessés sur plus de 2000 accidents. C'était le bilan des interventions de la protection civile en 2021. Ces chiffres ont été communiqués hier dans la localité par les responsables de la structure lors de la célébration de la Journée internationale de la protection civile. Le thème retenu pour cette édition est « Protection civile et gestion des populations déplacées en cas de catastrophe et de crise, rôle des volontaires et lutte contre la pandémie ». C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'était la présentation. Mariam Maïga, Gani Kanté a assuré la technique. Ne décrochez pas car l'info continue.